Chapitre 6. L'incendie avait, voici 8 jours, dévoré tout l'immeuble du Petit Paris. On plaignait la Griffoul, on le maudissait aussi, d'avoir souillé le plus beau quartier d'une plaie noire, hideuse, tant de débris calcinés, où seuls s'aventuraient les chiens et les chats. Qui donc nettoierait la place de cet amas de fumier, dont l'haleine pestilentiaire s'en allait des fois jusqu'au planol? La Griffoul, qui, heureusement, était un ami de M. le maire, obtint que les employés de la voirie l'aideraient en l'urgente besogne de salubrité publique. La besogne commença tout de suite et que Vignal vint de temps à autre surveiller. Maman la Griffoul, lasse de se lamenter dans l'ombre de sa boutique, se rendait chaque jour à la première messe de grand matin, priait Dieu d'assister ses enfants dans la peine et de la rappeler elle-même à lui entre les bras de la mort. Les charmaçons, qui avaient jeté un simple coup d'œil au reste de l'incendie, refusaient désormais d'y retourner une seconde fois pour ne pas s'exposer à la mauvaise humeur du monde. Ils ne gardaient que par résignation sous leur toit Hélène et son mari. Celui-ci avait écrit à Galissarde. Répondrait-elle enfin ? Hélène, qui retrouvait non sans douceur dans sa chambre de jeune fille le souvenir de ses jours d'insouciance, ravaudait le linge de la famille afin d'acquitter par son travail l'hospitalité de ses parents. Un jour que la Griffoul, avide de récupérer quelques ouvrages de sa peinture, fouillait les décombres en partie déblayés de sa maison, Courtès, qui était si content de ses recettes de carnaval, l'interrogea d'un ton moqueur. « Est-ce que tu reconstruiras ton magasin ?»« Avec quoi ? Je n'ai plus le sou. »« Tant pis. Mais on peut bien te l'avouer à présent, tu nous gênais beaucoup. »« Oui, c'est possible. » La Griffoul s'humiliait si gentiment que Courtès le plaignit d'un cœur sincère. Monsieur Fornet, à son tour, s'approcha, un peu rougeau sous son chapeau vert, et affectant la compassion d'un bon apôtre. « Quelle calamité, la Griffoul ! Et ce n'est pas juste, car en somme, tu étais animé des meilleures intentions. »« Vous voyez que ça ne suffit pas, les meilleures intentions. Vous êtes trop heureux, vous. Prenez garde. »« Eh bien, merci. Le malheur vous tombe dessus à l'improviste, dans le moment où on s'y attend le moins. » À propos, est-ce qu'on prétend encore que Gosim a fait des privilèges ? Pardon, moi je ne me mêle pas à ces racontars. Ah, tout m'accable à la fois. Comme ils virent des larmes dans les yeux de la Griffoul, Courtès et Fornet s'éloignèrent prudemment pour ne pas trop s'attendrir si, par hasard, ils sollicitaient n'importe quel secours. Lorsqu'il rentra par la ruelle chez les charmaçons, sa belle-mère lui tendit d'une main revêche une lettre qui arrivait de Cornioux. Galissarde avait été malade pendant 15 jours. Elle attendait de bon cœur Hélène et son mari. Alors la Griffoul, en son goût de l'aventure, reprit courage. En compagnie d'Hélène, il régla ses affaires, des notes de fournisseurs, le déblaiement de ses ruines, et au grand soulagement des charmaçons, à la désolation de maman la Griffoul, qui les embrassait peut-être pour la dernière fois, ils s'embarquèrent un matin pour Bédarieux, sans beaucoup de bagages, peu cher. C'était la fin d'avril, époque bénie en ce bal Languedoc, riant de lumière. Quand la ville eut disparu, dans la fraîche verdure de ses jardins et de ses platanes, il sembla naturellement à la Griffoul que son malheur disparaissait également, au lointain d'un autre âge. Pour lui, pour Hélène, la montagne s'éveillait à la voix du printemps qui avait renouvelé déjà la clarté de ses bois et parsemé d'herbes étincelantes les talus mêmes. Par la route blanche de la Cévenne, une auto les amena jusqu'au village de Cornioux, isolé dans la corbeille de ses prairies, à la lisière de sa forêt. Galissarde, un peu triste depuis sa maladie, reçut avec une vraie tendresse les deux époux que l'adversité rendait encore plus chers et confusément, elle souhaitait aussi qu'auprès de leur jeunesse, un renouveau pût lui revenir comme à la terre. Chez elle, ils trouveraient toujours du pain, un foyer de famille. Quant à l'argent, non, elle ne s'en séparerait jamais. Plutôt lui tirer le sang de ses veines, plutôt mourir. Et elle aimait tant sa montagne. Aux allusions d'Hélène, qu'elle comprenait tout de suite, elle répliqua invariablement dans les premiers jours « Plus tard, nous verrons plus tard. » Une fois, elle s'emporta. « Tu m'agaces, Hélène. Est-ce que vous n'êtes pas bien chez moi ?»« Si, ma nounou. Seulement, il n'y a pas d'avenir pour nous dans la montagne. » Il y en aura plus tard. C'est ton mari qui te pousse contre moi, n'est-ce pas ?
Non, ma nounou, mais je vois bien qu'il languit.
Il n'aime pas la terre, voilà tout. Qu'il aille donc labourer, tailler, fumer, sarcler, et il ne languira plus. On n'a pas été élevé dans ses habitudes.
Tant pis, en tout cas, ne me parle plus de l'argent.
Alors les jeunes époux firent de leur mieux pour devenir paysans, piochant le potager, arrosant les sillons du jardin et mondant les arbres, ramassant du bois dans la forêt, l'un et l'autre en costume de travail et chaussés de galoches. Mais on ne devient pas paysan. Il faut naître dans la terre, avec son cœur, au contact du vent, de la pluie, du froid, aimer les voies de la solitude. Heureusement, les longs jours arrivèrent, riches de soleil, chargés de fleurs et de fruits, par les champs qui sentaient bon comme des bouquets de noces, au bord des eaux qui riaient partout, sous la fonte des neiges, et qui, parfois, s'écroulaient en cascade de la lèvre du Causse, puis ruisselaient à travers les prairies, parmi les buissons, où le ciel se mirait avec les oiseaux. En outre, les soucis du magasin occupaient encore la grifoule. Il fallait entretenir des correspondances avec la tourbe impatiente des créanciers ou s'en aller précipitamment chez un notaire, chez un huissier, dans cette vieille ville de Bédarieux, dont un quartier sent la fabrique de draps, un autre le miel et le sucre des fameux biscottins, un autre la gentille rivière galopante sur les pierres où filent les truites. Tout juste si, par la vente de la maison incendiée, à Husclas, par la vente de son grand jeu et de sa vigne, la Griffoul réussit à acquitter jusqu'à sa dernière dette. Et, la conscience légère, il revint dans la fête de l'été au rêve de l'espérance. Un jour, il osa parler de ses pinceaux.
« Non, non !» se récria Hélène, « je ne veux de ta peinture à aucun prix. Tu te croirais un artiste et tu ne serais qu'un paresseux. »
La Griffoul se résigna d'assez bonne grâce afin d'expier ses péchés davantage. Ils décidèrent cependant, pour célébrer la liquidation de leur misère commerciale, d'aller, en compagnie de Galissarde, passer une journée de loisirs à la Malou. Oh, la charmante promenade, le long des haies bourdonnantes de guêpes, sur une route aussi lisse qu'un billard, dans l'enchantement d'un ciel d'azur. L'âne cadet, quoique vivant depuis toujours dans l'isolement de Cornioux, n'avait pas peur des autos. Au contraire, lorsqu'une auto, aussi impétueuse que le vent, dépassait sa carriole dansante, il essayait de courir lui aussi et même de galoper comme un cheval par amour-propre. On était en juillet. À la Malou, un monde venu de partout emplissait déjà les hôtels et les villas qui s'échelonnent sous les pins et les platanes dans le ravin de la bienfaisante Cévenne du Carou. Mais avant de penser au dîner, midi, on s'en alla faire un tour à la source de la Vernière, là-bas, au-delà de la route, dans la simplicité de la combe, amie de l'ombre et du silence. La Vernière, oasis ombragée d'oliviers, au pied de la haute falaise des Répians et tapissée de jolies pelouses, rafraîchie par l'onde blonde de l'Orbe qui, sur des bancs de sables et de rocailles, étale ses nappes miroitantes. Une guinguette attend, en face de la source, les baigneurs et les touristes qui s'installent, la plupart, à des tables rustiques pour jouer au loto. Or, les Lagrifoules aperçurent tout à coup, parmi les baigneurs, et avec quelle stupéfaction, M. Fornet et sa femme. Les Fornet, qui jamais ne sortaient de leur caverne d'Husclas. Que diantre signifiait leur présence à la Malou ? Il faut noter que, sur le sol de nos provinces, au moins du Bas-Languedoc, des compatriotes peuvent très bien, dans l'enceinte de leur cité, se détester à mort. Mais, hors de leurs murailles communales, que ce soit loin ou proche, ils se reconnaissent de même race, de même famille, parlant le même langage avec le même accent. Par conséquent, bien que, sur le pavé d'Husclas, ils fussent séparés par une question d'intérêt, les Fornet et les Lagrifoul devaient, sur un territoire étranger, se reconnaître fatalement une fraternité d'esprit et d'âme. Aussi, ce fut avec une égale effusion, à laquelle participa Galissarde, qu'ils s'écrièrent ensemble « T'es gars, qu'est-ce que vous faites ici ?»«
Nous sommes venus nous soigner, » dit Madame Fornet.
« Vous n'avez donc rien appris ?»«
Peu cher, non. Mes beaux-parents ont tellement peur de toucher à leurs prochains qu'ils ne nous écrivent jamais rien du bruit de la ville. »
Et pourtant, Fornet qui a eu une attaque, pas moins, t'es. Asseyez-vous.
Quand les Lagrifoules se furent assis sur le banc rustique, Hélène interrogea. « Alors, comment cela vous est-il arrivé, pauvre monsieur Fornet ?» Celui-ci branla doucement la tête sur ses épaules voûtées et remuant entre ses lèvres une langue lourde, il répondit « Un soir, que je revenais de mes tours et rebistours sous la halle, je suis tombé dans mon escalier. Ça y était, l'attaque. Voilà un mois. » Les Lagrifoules s'extasiaient de compassion, aussi d'étonnement qu'un homme, qui était l'exemple de la sobriété et de la sagesse, fut frappé d'un mal inexorable. « Tu sais, dit Madame Fornet à son mari, je ne veux plus que tu parles, on te l'a défendu. » Monsieur Fornet fit signe qu'il ne parlerait plus. Il regardait son verre, presque vide, d'eau de la vernière, et jetait un coup d'œil méfiant, néanmoins sans méchanceté, sur le petit Lagrifoule qui paraissait très bien portant. « Alors, demanda de nouveau Hélène à Madame Fornet, vous pensez que l'amalou lui fera du bien ?»« D'après le docteur Bastard, oui. Nous sommes ici depuis 15 jours. Des vacances qui ne finiront plus, pardi. Et qui garde la maison ?»« Peu cher, nous l'avons fermée. »« Fermée, par exemple. » »« Oh, nous ne la reprendrons plus. Impossible à moi seul, il y a trop d'écritures. Et puis, nous avons assez de quoi. » « Ça, personne n'en doute. » M. Fornet secouait les épaules, approuvé de dodelinement de sa tête un peu ahuri. Les deux femmes de Cornu ouvraient de grands yeux attentifs, tandis qu'une idée merveilleuse les travaillait en même temps. Galissard, parfois, écartait de son énorme front haché de rides une mèche de cheveux gris. Les joues d'Hélène brillaient, toutes rouges, dans une fièvre de convoitise. Plus rouée que son mari, elle se pencha vers la table et doucement insinua « Alors, le magasin, il vous faut le céder ?»« Oui, ma fille, quel regret !»« À qui le céder? Avez-vous quelqu'un en vue ?»« Non, je ne vois personne. D'ailleurs, je ne veux pas d'étrangers, ça me ferait trop de peine. Je veux quelqu'un du pays, qui aime ma maison, chez qui je puisse aller à mon gré, me retrouver un peu dans toutes mes marchandises. » « Oh, mon Dieu !» Madame Fornet sanglota. M. Fornet lui mit une main sur l'épaule, la supplia des yeux d'être calme, courageuse. Hélène frappa la table de ses petits poings afin de manifester sa tristesse, son indignation de si cruel malheur. Presque aussitôt, elle insista. « Si vous n'avez personne... »« Eh bien, ma fille, vous nous connaissez, nous autres ?» Les Fornet échangèrent un regard d'intelligence, en même temps que s'illuminait le mince visage noireau de Lagrifoule qui admirait sa femme, si rusée et si gentille. « C'est vrai, dit-il à brûle-pourpoint, pourquoi pas nous autres ?»« Mon Dieu, pourquoi pas? Vous êtes du pays, né dans le même quartier que nous. Certes, là-bas, vous nous avez fait souffrir, mais dans nos épreuves, tout cet embarras doit s'oublier. » Seulement, pour acheter notre magasin, il faudra de l'argent. Nous en aurons, répliqua Lagrifoule, qui n'osait pourtant pas regarder Galissard. Hélène, plus hardie à cette minute suprême, se tourna vers sa nounou et, d'une voix caressante, la provoqua. Ce n'est pas quand la chance nous revient qu'on nous abandonnerait. Moi, je ne dis ni oui ni non. Faut réfléchir. Et Galissard, souriant avec malice, repoussa comme par mégarde Hélène, dont le frôlement devenait importun. Puis, pour n'avoir pas d'engagement à prendre vis-à-vis des Fornet, elle rompit sans façon l'entretien. « Nous allons dîner. C'est midi, on sonnera bientôt de la cloche à l'hôtel. » « Alors, fit Hélène à Madame Fornet, on en causera ?»« Oui, ma fille, je te le promets. » »« Et à Dicias !» salua Galissard. Brusque, elle amena les Lagrifoules à la longue passerelle qui, dans les clartés du soleil et de l'onde, franchit la rivière bruissante. En route, le visage pensif, elle évita de répondre aux allusions réitérées d'Hélène qui, par prudence, prit le parti de se taire. Pendant le dîner à l'hôtel Mas, au milieu du monde qui déjeunait par petites tables, on se garda d'évoquer la succession du magasin Fornet. Au dessert, cependant, Hélène s'apitoya sur le sort du vieux boutiquier qui ne méritait pas un tel châtiment. Et Lagrifoule, qui au fond s'en réjouissait, soupira « Ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. » Pas toujours, maugréa Galissard en épiant de son œil aigu, qui, durant sa vie, avait reflété tant de figures menteuses, les deux époux dociles et flatteurs. Elle régla royalement la note du repas, fière d'exhiber plusieurs billets de banque entre ses gros doigts. Dans le remous de son orgueil, elle eut une véritable joie qui la mit enfin de bonne humeur. On revint le soir à Cornioux, dans la pourpre du soleil qui, parfois, gênait les yeux de l'âne. Galissard affecta de ne parler que des gens cossus qui n'avaient rencontré que la ruine dans des entreprises mal étudiées ou des vieux qui, ayant prématurément livré leur fortune à des enfants étourdis, rencontraient que l'ingratitude. Les Lagréfoules ne soufflaient pas un mot de protestation et de quel émoi d'inquiétude ils frissonnaient. Après qu'on eut soupé dans la fraîcheur verte du jardin, sous la treille aux muscats mûrissants, ils souhaitèrent une bonne nuit à Galissard, mais ils ne pressentaient pas du tout de quel côté penchait son idée de l'argent. Quand ils furent seuls dans leur petite chambre, Hélène interrogea son mari. « Que crois-tu qu'elle fasse pour nous ?» Lagréfoule, qui au moindre rayon d'espérance retrouvait son optimisme, répondit tranquillement « Elle ouvrira son porte-monnaie. » Le contraire serait dommage, car les Fornay me semblent acquis à nos propositions, à la condition pourtant que dans Musclas, on ne les détourne pas de leur bonne volonté. Oh, cela n'écoute guère les suggestions de leurs prochains. À l'aube, ils se levèrent sans bruit pour ne pas déranger Galissard. Mais Galissard, comme eux, s'était levé plus tôt que d'ordinaire. Étonné que déjà elle s'occupât dans le jardin à tendre les cordes ou accrocher sa lessive, ils s'avancèrent d'un pas timide en souriant. Galissard les regarda de travers avec une moue de rancune. Car elle avait enfin résolu, non sans une satisfaction vaniteuse, de montrer aux gens de la plaine sa puissance, d'offrir au moins à Hélène le sacrifice de son bien. C'est d'une voix grincheuse, en entremêlant ses recommandations d'une foule de reproches, qu'elle leur annonça la bonne nouvelle. « Allons, ne vous tourmentez plus. Ça y est, nous irons nous entendre avec les Fornay dès qu'ils seront de retour à Usclas. » À ces mots, Lagréfoule eut des pieds à la tête un tressaillement de flamme. Hélène, en pleurant de bonheur, se jeta comme une enfant entre les bras de sa nounou. « Seulement, dit celle-ci, il me faut conserver cette maison de Cornioux. Et puis, j'ai 100 000 francs, même davantage. »« Oh, nounou, il n'en faudra pas autant. »« Mais c'est pour toi. Que de bêtises tu me fais faire !»